Bien, bonsoir. J'espère, j'ai essayé en fait de faire quelque chose de susceptible de vous intéresser. J'espère que ça sera le cas. Donc, quand vous allez dans votre magasin habituel, vous avez une impression de biodiversité, naturellement. Mais lorsque vous regardez de plus près, vous voyez quoi? Vous voyez par exemple, il y a des tomates. Il n'y a qu'une variété de tomates. Il y a du raisin, il y en a deux, etc. Les poivrons, il y en a trois couleurs. Donc, vous voyez bien, enfin, vous devinez un petit peu que tout ce qu'on peut trouver sur la planète n'est pas dans votre grande surface. Mais votre grande surface, elle est là, ici, à Marseille. D'où viennent ces plantes, même si elles sont cultivées dans la région? D'où viennent-elles historiquement? Qu'est-ce qui s'est passé? Sont-elles égales devant leur biodiversité? Il y en a qui sont très, comment dirais-je, en danger. D'autres, il n'y a pas de souci. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Donc, quand et où ça s'est fait? Comment ça s'est passé? Pourquoi tout le monde n'est pas égal devant la biodiversité? Les conséquences et puis quelques conclusions. Donc on va remonter un petit peu dans le temps bien lointain. Donc aujourd'hui on est dans cette situation avec nos continents bien identifiés, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Au début vous aviez une espèce de grand continent, et puis petit à petit on a deux choses qui se sont passées, c'est qu'à la fois les espèces ont évolué et les continents se sont séparés. Donc vous imaginez assez facilement qu'avec le temps, en fait, les espèces qu'on trouve sur les différents continents, pour ceux qui ont voyagé, ne sont pas les mêmes du fait des climats qui sont différents et du fait des régions qui sont également différentes. Donc progressivement, se sont installées des végétations, des espèces différentes. Certains certainement connaissent ça. Le monde vivant est séparé en catégories. Alors non, il n'est pas séparé en catégories, c'est nous qui le faisons comme ça parce qu'on s'y retrouve mieux. Donc il y a le monde du vivant séparé en grandes familles, genre, espèces. Et quand nous on travaille au niveau de la génétique, souvent on travaille à ce niveau-là, et la biodiversité on la regarde à ce niveau-là pour les plantes cultivées. Donc il y a 134 millions d'années, apparaissent les angiospermes. Donc, c'est-à-dire, en fait, c'est les plantes qu'on voit aujourd'hui, avec deux grandes catégories, les monocotylédones et les dicotylédones. Et puis, il se passe beaucoup de temps. Et à un moment donné, l'homme, qui est donc originaire ici d'Afrique, commence sa promenade sur la Terre et va donc progressivement s'installer un petit peu partout. On considère à peu près qu'il y a 30 000 ans, l'homme est allé partout sur la planète. Donc, il est arrivé dans des environnements froids, tropicaux, et pendant encore 5 à 10 000 ans, il ne va pas faire grand-chose, en fait, si ce n'est qu'il va un peu réfléchir à son environnement. Et il y a 15 000 ans, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a 15 000 ans à peu près, il s'arrête et commence à modifier sérieusement son environnement. C'est-à-dire que jusqu'avant, il se déplace, il cueille, et puis c'est tout. Et à un moment donné, presque simultanément, il va s'arrêter, il va commencer à regarder son environnement, commencer à domestiquer les espèces animales, donc leur donner également à manger. Donc il va regarder les espèces végétales qu'il y a autour. Lui-même va se concentrer sur son environnement et il va essayer de modifier son environnement, alors qu'avant, il ne faisait que passer. Et ces gens-là donc, sont des cueilleurs et des chasseurs. Les cueilleurs avaient une très forte connaissance de leur environnement, c'est évident, parce qu'ils avaient intérêt à ne pas se tromper, non seulement sur l'espèce qu'ils cueillaient, si elle était toxique, bon, c'était vite réglé, mais il choisissait progressivement les variétés, les plantes les meilleures. Donc ils ont progressivement sélectionné, et c'est un long processus, puisque ça a pris quand même, pour certaines espèces, les dernières étant domestiquées, c'est comme le kiwi, c'est les plus récentes, ça a pris quand même plusieurs dizaines de milliers d'années, mais au temps géologique, c'est relativement très peu. Et lorsque l'on dit, bon, à partir de quoi ils sont partis, bon, grosso modo, c'est c'est des approximations, environ 300 000 espèces, parmi lesquelles il y a des algues, des mousses, des fougères, des gymnospermes. Bon, c'est pas grand-chose avec ça. Il y a les dicotylédones et les monocotylédones dont je vais vous parler. Bon, il y en a 199 000, 59 000. Ça fait quand même pas mal d'espèces. Mais au final, il y en a beaucoup qui ne sont pas arrivés au terme de la domestication. Et d'ailleurs, on peut se demander pourquoi ça n'a pas été comme ça. Donc, c'est un processus qui s'est fait progressivement. Et ça a conduit, il y a toute une des effets collatéraux, puisque tout le développement social et l'organisation politique qu'on connaît aujourd'hui, en fait, est souvent dérivé des premiers éléments qui se sont mis en place à ce moment-là. Alors, prenons un exemple. Le blé. Vous connaissez le blé ? Bon, c'est une céréale. En fait, au départ, c'est une mauvaise herbe. C'est une herbe. Et comment quelqu'un donc, qui est cueilleur, chasseur, imaginez une prairie avec des herbes et regardez à côté un champ de blé. Vous voyez bien qu'entre les deux, il s'est passé quand même pas mal de choses. Comment concrètement ça s'est fait ? En fait, qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse ? Il fallait tout d'abord qu'il y ait une tige suffisamment rigide pour qu'elle ne tombe pas. Il fallait également que les grains soient suffisamment gros et positionnés de manière compacte et ne tombent pas également à la maturité. Vous avez déjà regardé, en fait, quand vous vous promenez dans la nature, des fois, vous voyez sur vos chaussures, sur vos bottes, il y a des plantes qui s'accrochent. Donc ça, c'est des mauvais candidats pour la domestication parce que c'est pas très rentable. Donc... Et un certain nombre de caractères qui sont indispensables. Et puis un autre caractère qui est fondamental, c'est que tout ça mûrisse en même temps. Parce que si vous voyez bien dans les champs de blé, ils sont tous mûrs en même temps. Donc, pour domestiquer une céréale, il faut un rachis épais, des glumes protectrices, des gros grains, des grains qui restent accrochés. Et donc ces gens-là, en fait, ils ont fait depuis bien longtemps de la génétique, sans même s'en rendre compte. Alors, où est-ce que ça s'est produit ? Parce qu'aujourd'hui, on voit nos champs de blé un petit peu partout. Où est-ce que ça s'est produit ? Eh bien, pour ce qui concerne le blé, ça s'est produit dans le croissant fertile. On en a tous entendu parler à l'école, donc c'est le berceau de la civilisation. Et il se trouve que dans cette région, il fallait la concomitance de gens intelligents qui pensaient à domestiquer, mais en même temps, il fallait qu'il y ait les espèces adéquates. Donc, dans toute cette partie, Irak, Liban, Syrie, Israël d'aujourd'hui, Jordanie, Iran, c'est là que s'est produit ce phénomène. Mais en même temps que ce phénomène de domestication se faisait, il fallait aussi qu'il y ait de la modernisation dans les technologies. Il fallait que les gens aient des instruments pour optimiser leur production et leur rendement. Et dans cette même région du monde, donc, ils ont domestiqué en même temps le mouton, la vache et le cochon. Alors, qu'est-ce qui se passe après ? Donc, ça s'est fait à cet endroit-là, et il y a commencé à y avoir une dispersion depuis le Moyen-Orient. C'est à peu près bien daté, donc on sait qu'il y a 8000 ans, donc en Grèce, Égypte, Pakistan, on trouve le blé, 5000 ans, l'Espagne, l'Angleterre, la Scandinavie, 4000 ans, en Chine. Et puis, alors, ce qui est amusant de voir, c'est que, par exemple, le blé dur est arrivé en Chine bien plus tard, mais les Chinois l'ont travaillé, ont fait des pâtes, et les pâtes sont revenues en Italie. Les Italiens nous disent les avoir inventées, mais en fait, ils n'ont fait que améliorer les recettes. Et ensuite, les Italiens, eux, ils ont effectivement inventé la pizza, et c'est les Américains qui pensent l'avoir inventée également aujourd'hui. Donc vous voyez que dans l'inconscient collectif, on n'est pas toujours dans la réalité. Donc le fait d'avoir cette zone primaire de domestication a mis cette civilisation dans un état d'avancée évident, et au niveau historique, les peuples les plus qui ont pris en fait le plus de science au départ sont issus de cette région-là. Hein, donc ensuite l'Égypte, etc., etc. Donc ça permet à l'homme d'avoir du néolithique, d'avoir assouvi ses besoins par l'agriculture, et en fait après il peut commencer à penser, à construire, à avoir donc avec les animaux morts, du cuir, des os, de la graisse, et à faire autre chose que s'alimenter. Alors, maintenant, si on quitte le blé et qu'on regarde d'où viennent les autres espèces que l'on connaît aujourd'hui. En fait, si vous regardez votre rayon dans votre supermarché, vous pouvez voyager sur la planète. En réfléchissant à ça, vous voyez que, par exemple, le riz, la canne à sucre, le cacao, la cacahuète, la pomme de terre, le tabac, le tournesol, etc. Chacune des espèces, grosso modo, est originaire d'une région spécifique. Et cette région spécifique, il y a un chercheur russe du début du XXe siècle qui s'appelait Vavilov. Il a structuré la planète en fait en centres de diversité primaire et secondaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a des zones sur la planète qui sont beaucoup plus importantes du point de vue de la biodiversité, parce que généralement, les gens ont pu faire ça parce qu'ils avaient autour d'eux beaucoup de biodiversité et qu'ils ont su la domestiquer et en faire quelque chose. Donc, c'est ce qu'on appelle les centres de domestication et les points chauds. Donc, en fait, cette mondialisation-là qui a eu progressivement était bénéfique, puisque aujourd'hui, on n'aurait pas des tomates, on n'aurait pas de pommes de terre, on n'aurait pas de café, on n'aurait pas de cacao, de chocolat. Donc vous imaginez le monde dans lequel on vivrait. Mais ce que je disais à quelqu'un là tout à l'heure, c'est que si on était aujourd'hui dans la même situation que Christophe Colomb et ses collègues à l'époque, je ne sais pas si on pourrait faire la même chose, parce que avec les systèmes de droits de propriété, de barrières aux migrations, eh bien, les paysans d'Amérique du Sud seraient tout à fait légitimes de dire « Écoutez, nous, on garde nos tomates pour nous. Maintenant, si vous voulez cultiver des tomates chez vous, vous allez payer les droits à nos paysans, parce que nous, ça fait 15 000 ans qu'on travaille dessus pour vous domestiquer la tomate. Il n'y a pas de raison que vous trouviez votre tomate à 2 euros le kilo dans votre magasin. Il faut payer des taxes pour les gens qui ont fait ça. » Bon, je peux prendre d'autres exemples comme ça. Mais aujourd'hui, on ne pourrait peut-être pas faire ce genre de travail. Alors, du coup, en fait, il y a également ils ont pris des risques énormes, parce qu'ils ont introduit, par exemple, le maïs, on va en parler tout à l'heure, aucune précaution. Les gars, ils prenaient ça dans leur bateau. Chut, allez, on débarque de l'autre côté, on essaye, on regarde si ça pousse, tant mieux, on en met. Qu'il y ait des flux de gènes, hein, vous avez entendu parler des OGM et tout ça, qu'il y ait des flux de gènes, etc. Ils ne savaient même pas que ça existait, donc... Et voilà, donc ils ont fait plein de modifications de l'environnement, et finalement, ça s'est relativement pas mal passé. Bien, donc, les espèces ont été domestiquées dans des régions très précises, elles ont migré souvent, donc par voie terrestre, maritime, elles ont migré dans les deux sens. Donc il y a, par exemple, je parlais des tomates, des pommes de terre qui sont arrivées chez nous. Le café, par contre, il vient d'Afrique, je vais vous en parler après, et... On a tous l'impression qu'il vient d'Amérique du Sud, mais en fait, non. C'est une plante africaine. Et aujourd'hui, en fait, aux conditions météorologiques près, on trouve de tout partout. Alors, revenons sur ce qui a été ce que nous avons aujourd'hui dans nos magasins et que nous consommons et qui était inconnu. Donc, tomates, piments, coton, pommes de terre, arachides, maïs, haricots, ananas, avocats, tout ça... viennent d'Amérique du Sud. Alors, la question que j'évoquais en introduction, c'est est-ce que toutes les espèces sont équivalentes au niveau de la domestication des possibilités ? Vous doutez bien que si je pose la question, c'est que vraisemblablement c'est non. Et pourquoi? Parce que il y a des facteurs importants, outre le fait qu'il faut que ce soit un endroit où quelqu'un pense à le faire, mais il y a le niveau de diversité génétique sur lequel on va revenir tout à l'heure. Il faut qu'il y ait de la diversité génétique pour le faire. Il faut que le statut de l'espèce cultivée soit clairement différent par rapport à l'espèce sauvage qui existe déjà dans l'environnement. Alors comment ça se passe? Je vais essayer de vous expliquer plusieurs scénarios, il y en a trois je crois, avec des risques minimum et maximum d'une espèce. Donc, reprenons, on est à peu près 12 000, 10 000 ans, en phase de domestication, et puis la personne ou l'ensemble de la communauté qui fait sa domestication a une diversité génétique qui est plus ou moins importante à sa disposition. Ils vont faire un acte de sélection et ils vont donc sélectionner une petite partie, plus ou moins grande. Ensuite, généralement, bon, ils ont fait un premier travail et comme tout humain, en fait, ils vont essayer de s'améliorer, donc de faire des variétés plus performantes, plus productives. Et qu'est-ce qu'ils vont faire pour faire ça? Ben, en fait, ils vont abandonner tout ce qui n'est pas intéressant à leurs yeux au moment où ils le font. Donc, ils vont faire une forme cultivée traditionnelle. C'est à peu près ce qu'on trouvait, ce qu'on appelle les variétés de paysans, hein, donc dans les années fin du 19e, début du 20e siècle, avant l'industrialisation. Et puis, progressivement, au cours des années du 20e siècle, hein, il y a différents processus d'amélioration, et le cultivar moderne, la tomate que vous trouvez dans votre grande surface, eh bien, il n'y a plus que quelques variétés qui sont cultivées. Par exemple, prenons un exemple que vous connaissez, c'est les cépages de vigne. Les cépages de vigne, donc c'est les variétés de vigne en fait qui sont utilisées pour le vin. Il y en a à peu près 4 ou 5 000 de connus aujourd'hui, mais il n'y en a que 20 qui sont utilisés pour la viticulture, et il y en a qu'une demi-douzaine, le Syrah, le Grenache, etc., enfin, le Merlot, enfin ceux que vous connaissez, qui sont vraiment un statut d'utilisation importante. Donc, si on ne préserve pas tout le reste, on risque très vite d'avoir des soucis. Scénario 2, c'est mieux. Donc, bon, on repart du même système, hein, donc ils ont fait la même chose, mais pour différentes raisons, ils ont, à différents endroits, fait des sélections qui sont un petit peu différentes. Et puis, il y a des gens qui ont eu, au milieu du XXe siècle, l'idée de préserver. En sentant venir le risque, ont préservé ces ressources génétiques, donc ils appellent ressources génétiques, hein, ou variétés anciennes, et les ont mis en collection sous différentes formes. Et le fait que ces cultivars, on est toujours dans la même situation, hein, les producteurs ont toujours amélioré, mais en réduisant la diversité, mais il y a de la diversité disponible, et s'il y a un problème, donc on peut revenir à ces variétés anciennes, et donc le risque est modéré. Et puis, la situation où le risque est faible, c'est qu'on se retrouve dans la même situation que tout à l'heure, mais il y a d'autres espèces qui sont également là et qui sont proches de la première et qui peuvent également représenter ce qu'on appelle un pool génétique de réserve, en fait, pour la domestication. Ce qui fait que le risque est tout à fait modéré. Alors, qui essaye de faire cette conservation de la biodiversité? Bon, il y a beaucoup d'associations, de producteurs, de consommateurs qui font ça. Il y a les croqueurs de pommes, hein, en France, pas très loin d'ici. Et il y a un certain nombre d'institutions internationales qui ont pris ça en main, parce que bon, ils l'ont pris au niveau grande échelle. Ce sont des instituts, ils répartis à peu près sur l'ensemble de la planète, et chacun s'est spécialisé un petit peu dans son type de plante. Par exemple, il y a des collègues de l'IRD qui ont travaillé là-bas, à Liri, aux Philippines. Ce centre s'est spécialisé sur le riz. Donc, il y a des collections de riz de toute la planète. Prenons le SIAT en Colombie. Bon, il s'est spécialisé, et puis le CIP hein, au Pérou. Ces deux-là se sont spécialisés sur toutes les plantes d'origine de cette région andine. Le CIMIT, il s'est spécialisé sur le blé et le maïs. Par contre, il a des collections d'un peu partout. Donc, au XXe siècle, ils ont fait beaucoup de travaux jusqu'au protocole de Rio. Et après Rio, donc, il y avait des échanges libres entre les centres, entre les gens. Et lorsqu'on a commencé, ce que je vous disais tout à l'heure, à dire, OK, attendez les gars, là, moi j'ai bossé pendant 15 000 ans là-dessus, donc vous devez des droits sur ce que j'ai fait. Et eh bien, en fait, le résultat, alors qu'on pensait que les paysans auraient de l'argent, en fait, ça a bloqué le système et les gens n'échangent plus rien. Et donc, ils ont pas plus d'argent qu'avant, mais les échanges ne se font plus. Alors, prenons un exemple, le blé. Donc, quel est son statut vis-à-vis de risque de biodiversité? Eh bien, en fait, il y avait dans cette partie du bassin méditerranéen beaucoup de diversité, mais dans le blé, vous avez le blé dur, donc qui sert, qu'on trouve dans le sud de la France, qui sert pour faire les pâtes, et puis le blé tendre qui sert à faire le pain. En fait, il y a eu une énorme. D'abord, ce sont des formes hybrides, très complexes, et il y a eu une perte de diversité très très forte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ressources disponibles potentiellement, mais très très peu de diversité en culture. D'ailleurs, quand vous regardez un champ de blé, vous voyez bien, il n'y a rien qui dépasse, hein. Maintenant, le maïs. Le maïs, c'est une plante rebelle. Une plante rebelle parce qu'elle refuse l'homogénéité. C'est une espèce miraculeuse parce qu'elle se diversifie tout le temps. Vous avez une domestication qui s'est faite avec des migrations vers le nord des États-Unis et vers le Canada, et vous avez une autre domestication qui s'est faite vers le sud, donc vers l'Argentine. Et donc tous les maïs qu'on trouve au nord de Paris, par exemple, sont des maïs qui viennent du nord du continent américain, alors que les maïs qu'on trouve en Espagne sont originaires du continent sud-américain. Et progressivement, avec les siècles, donc depuis que ces plantes sont installées, il s'est produit des différenciations entre les maïs du nord et les maïs du sud. Alors, le quatrième exemple dont je voulais vous parler, parce que vous le connaissez enfin tous, vous en consommez peut-être pas tous, mais en tout cas, vous le connaissez tous, c'est le café. Le café, donc, c'est issu de plantes qui sont originaires d'Afrique, donc toute la zone tropicale humide et puis de Madagascar. Ce genre botanique comprend 103 espèces. Donc vous voyez, il y avait beaucoup de possibilités. Mais en fait, l'homme n'en a choisi que deux. Coffea canephora, qui est connu sur le Robusta, c'est un café qui est un peu costaud là, quand on veut bien se réveiller le matin. Et puis l'autre, c'est Arabica, qui est donc plus doux, etc. Alors, prenons cet exemple pour vous montrer une espèce qui est en très grand risque. Pourtant, vous trouvez du café partout, dans plein de vos magasins, dans les dosettes, tout ce que vous voulez. Mais il y a un risque énorme. Pourquoi? Bon, je vous ai dit 103 espèces, deux cultivées. Déjà, vous voyez que ça a sélectionné drastiquement. Ensuite, Arabica, c'est une espèce qui est en fait un hybride entre deux espèces. Donc, en fait, c'est un métis. Et ce métis, en fait, ça s'est produit une fois ou un nombre limité de fois. Donc, il y a déjà moins de diversité que l'ensemble des populations d'origine. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé vers le 10e, 11e siècle? En fait, ce sont les Arabes, c'est pour ça qu'on l'appelle Arabica, en fait, ils allaient de temps en temps de l'autre côté et ils ont vu que les gens utilisaient cette boisson, que ça leur donnait un peu de force. Et donc, eux ne pouvaient pas la cultiver parce qu'il faisait trop sec. Par contre, ils la consommaient. Et puis, tous les gens qui faisaient la route de la soie, ils passaient par là, ils se sont dit, tiens, c'est pas mal ce truc, on peut en emmener chez nous. Donc, ils ont piqué quelques graines en passant, qu'ils ont emmenées. Donc, il y avait des Français et des Anglais, on est assez égaux hein, pour chourer les trucs aux autres. Donc, on en a pris, on les a mis au Muséum d'histoire naturelle à Paris, et les Anglais, eux, ils les ont mis ça à Kew Garden, à Londres. Et puis, nos amis, les voyageurs, quand ils ont fait la traversée, ben, ils ont été en chercher dans ces jardins botaniques et ils ont transporté ça de l'autre côté. Et puis, comme ça marchait bien, en fait, tout le continent, donc Brésil et puis tous ces pays-là, Amérique centrale, Amérique du Sud, se sont mis à cultiver le café arabica. Mais là, en fait, vous voyez bien qu'il y a une succession de goulots d'étranglement pour la biodiversité qui s'est faite, et que c'est vraiment une espèce qui a un risque maximum. Il suffirait qu'il y ait une maladie, il y en a d'ailleurs déjà, des maladies qui s'installent, et vous voyez, puisque tout est identique, que le risque est important d'avoir des soucis. D'où l'intérêt d'avoir la conservation de ces ressources génétiques. Donc, au final, on pourrait mieux faire. On s'est dit, tiens, avec toutes les espèces qu'il y a, pourquoi on n'a fait que ça ? Donc, sur les animaux, en fait, il y a 148 espèces d'herbivores mammifères disponibles, mais il n'y en a que 14 de domestiqués. Les plantes, 200 000 espèces, il y a une centaine plus ou moins domestiquées, trentaine de majeures, vous les connaissez. Alors, pourquoi une des raisons, c'est que tout ne peut pas se faire aussi facilement. Pourquoi est-ce qu'on a domestiqué facilement l'amandier et que le chêne, on ne l'a pas domestiqué ? On attend que les glands y tombent. Bon, chez l'amandier, le caractère donc d'avoir des amandes douces par rapport à des amandes amères est très simple. C'est ce qu'on appelle un caractère monogénique. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Vous faites une descendance. Bon, et puis, dans la descendance suivante, ça va s'égréger. Il y a la moitié qui vont l'avoir, l'autre moitié qui ne vont pas l'avoir. Donc, c'est très facile en espace d'une dizaine d'années, si vous avez compris un petit peu intuitivement ce qui se passe. De toute façon, en les consommant, vous avez les amères, vous les laissez de côté, et vous sélectionnez que les douces. Très vite, l'amandier, vous allez pouvoir le sélectionner. Alors que chez le chêne, donc le fait que le gland soit doux ou pas doux, c'est un caractère polygénique, il y a plein de gènes qui sont répartis partout dans le génome de la plante, qui font que c'est absolument impossible. En plus, vous imaginez travailler sur du chêne avec la durée de vie du cycle. Bon, vous n'êtes pas sorti du boulot, quoi. Hein. Et puis, alors, un exemple assez amusant, c'est le cheval et le zèbre. Pourquoi est-ce qu'on a domestiqué le cheval et pas le zèbre ? Hein, ça, c'est pas évident. En fait, le truc, c'est que le zèbre, il voit très bien ce qui se passe dans son dos. Enfin, il a une vision très périphérique et il voit ce qui se passe. Et donc, quand l'homme il a essayé de choper le cheval ou le zèbre, eh ben, le cheval, il l'avait presque à tous les coups avec un peu d'expérience, et le zèbre, il n'y est jamais arrivé. Donc, voilà, le cheval a été domestiqué et le zèbre, il est toujours tranquille. Bon, à condition qu'on le mette dans les réserves parce que, bon, il fait quand même de la viande. Voilà. Et puis, il y a d'autres choses qui sont passées. Il y a toujours des expérimentateurs dans une population qui vont tenter, non, ils prennent des feuilles, ils les mettent dans l'eau comme ça, et puis ils regardent ce que ça donne. Il y en a qui boivent, pouf, ils sont morts, et puis d'autres, ça marche. Donc, par exemple, ils se sont aperçus que pour le thé, bon, ben, en fait, ça permettait de rester mieux, plus jeune. Donc, en fait, sans le savoir, hein, c'était tout ce qui est peroxydation des lipides, hein, c'est tout ce qu'on parle aujourd'hui, hein, donc de la qualité, manger des fruits, c'était ça. Hein. En même temps, ceux qui consommaient ça, ils avaient moins de dermatoses, tous les psoriasis et tout, autre chose comme ça, ils en avaient beaucoup moins. Et puis, ils avaient aussi moins de problèmes aux dents, parce qu'il y avait des minéraux, etc. Donc, très rapidement, les gens se sont dit, c'est intéressant de consommer ce produit. Et puis, en plus, il y a toute la cérémonie du thé qui s'est mise tout autour. Et donc, avec l'aspect social et l'aspect de cette plante et puis ses activités cachées, ben en fait, elle s'est trouvée domestiquée alors qu'a priori, elle n'avait pas de raison de l'être. Bien. Alors, maintenant, on a des outils modernes qui permettent de faire l'évolution et de la diversité avec ces marqueurs. Puis maintenant, il y a tout ce qui est lié au séquençage des génomes qui va de plus en plus vite, même si pour l'instant, il n'y a que très peu de plantes, le riz, en particulier la tomate, dont le génome est séquencé, mais avec les nouveaux outils, là, dans les 10 ans, ça va sortir de partout. Donc, on peut avoir une idée très fine de cette diversité. par exemple, avec ce qu'on appelle les marqueurs microsatellites. Vous en avez entendu parler parce que quand vous regardez la télé, là, les séries Cold Case ou machin comme ça, ils sont toujours en train de faire des analyses et en fait, ils font ça. Par exemple, pour l'humain, on est capable, en choisissant, parce que bon, on sait ce qu'ils ont fait, avec moins de 10 marqueurs microsatellites, en fait, on peut identifier chaque individu sans aucune ambiguïté sur toute la Terre. C'est une espèce de carte, un code barre. Bon, comme vous voyez dans votre magasin, hein, il y a le code barre. Ben, ça, c'est un code barre génétique. Et par exemple, avec la vigne, avec 6 microsatellites, ben, en fait, ils sont capables d'identifier chaque cépage individuellement. Et en plus de ça, ils sont capables de savoir qui a donné naissance à qui. Hein, donc ça se sert en test de paternité. Ça se sert évidemment également quand on trouve un cadavre et qu'on ne sait pas qui c'est. Ça se sert également pour, dans le cas des viols. Enfin, vous voyez, ces marqueurs-là sont absolument imparables. Voilà, donc, pour conclure et vous laisser le temps un peu de poser des questions, donc, vous voyez que d'un point de vue historique, c'est quand même un processus qui est récent, hein, même si 15 000 ans comme ça, bon, par rapport à notre échelle de temps d'une semaine, ça fait long, mais au niveau géologique, c'est très récent. Que toutes les espèces ne sont pas disponibles partout, donc on ne pouvait pas sélectionner la tomate en Europe, c'était pas possible. Des possibilités plus ou moins évidentes de domestication, donc l'histoire du zèbre et du cheval, bon, le zèbre il est toujours sauvage et le cheval il est archi-domestiqué. Et que les échanges intercontinentaux par tous les moyens ont eu des très gros impacts, plutôt globalement positifs, sur la disponibilité alimentaire au niveau de la planète. Mais que les espèces, elles, sont inégales face à la diversité et leur possibilité d'évolution. Voilà. Je vous remercie. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Oui.
Bonjour. Est-ce que le catalogue officiel des semences de plantes n'est pas l'obstacle majeur à la biodiversité voilà.
Bon, alors oui, alors, le catalogue. Alors, tout le monde n'a pas le même catalogue. Hein. En France, il y a l'UPOV. Hein. Et puis, il y a les catalogues donc, où sont décrites chaque variété. Et une variété, si vous voulez faire une nouvelle variété, vous devez démontrer qu'elle est différente de ce qui existe déjà dans le catalogue. Hein? Donc ça, c'est une condition. Et c'est sûr que c'est pour sortir une nouvelle variété, il va vous falloir, même sur une plante annuelle, il va vous falloir au moins 10 à 15 ans. Hein? Donc c'est vraiment pas facile à faire, oui.
Moi, je parle pas de sauvegarder plantes, parce que ça, c'est pas le
plus.
De sauvegarder les anciennes.
Ah, sauvegarder les anciennes. Oui, alors... Il y a une dualité effectivement entre ceux qui veulent vendre et ceux qui veulent sauvegarder. Ceux qui veulent vendre et produire, en fait, ils cherchent à faire des nouvelles variétés. Par exemple, moi j'habite à Montpellier et je vais souvent sur le marché de Lunel, enfin acheter mes tomates au printemps, et il y a, donc ils vendent des tomates hybrides. Hein. Hein, donc ils les vendent en fait, si vous regardez bien le prix, ça, vous me faites mieux d'acheter vos tomates que de les acheter. Mais ils essayent en fait de faire à chaque fois des trucs que vous ne pourrez pas reproduire vous. Hein, donc ça c'est leur impact. Donc en fait, la conservation des ressources génétiques, ça ne les intéresse pas. Hein, bon, donc c'est pour ça que souvent en fait, ce sont des associations ou des centres internationaux qui s'occupent de ça. Donc effectivement, dans un sens, c'est antagoniste hein, les deux systèmes.
Oui, je voulais évoquer la notion, l'adaptation au changement climatique avec ce que vous avez évoqué sur la biodiversité, sur les plantes cultivées surtout, domestiquées. Étant donné qu'il y a quand même un certain nombre de berceaux qui sont dans des zones tropicales, que ce que vous avez montré, comment est-ce qu'on peut considérer que si on est dans des scénarios plus 2 degrés, plus 4 degrés, plus 6 degrés, est-ce que grosso modo on peut prendre les plantes qui sont dans ces zones dites tropicales chaudes, est-ce qu'elles vont monter toutes seules ou est-ce qu'il y aura besoin d'un effort de domestication d'adaptation à faire pour garder des rendements, machin, etc., rester dans un système productiviste, ou est-ce qu'il y a d'autres choses, est-ce qu'il y a des scénarios auxquels on peut commencer à penser dès maintenant sur ce sujet?
Pour rester dans la région ici, donc dans le sud de la France, il y a des études qui ont été faites, par exemple, sur les cépages de vignes. Ils sont aperçus que sur un siècle, à peu près ça fait un siècle que les gens regardent ça précisément, les périodes de floraison et de maturation de la vigne se sont décalées d'un mois. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, c'est pas rare de récolter au mois d'août et d'avoir des floraisons également. Donc on a un raccourcissement, un changement du cycle. Bon, ça va poser des problèmes parce que normalement, la maturation du raisin se fait en période de température qui décroît. Au mois d'août, ce n'est pas vraiment la situation. On sait également que, par exemple, le chêne vert qu'on trouve dans nos régions, vraisemblablement, va migrer de 100 à 200 km vers le nord. Donc on peut s'attendre à avoir du chêne vert jusqu'à Clermont-Ferrand ou dans ces endroits-là. Progressivement, en fait, on voit bien, moi je m'en suis aperçu pour des arbres que j'ai chez moi, quand la période sèche est trop grande et qu'il ne pleut pas, par exemple, pendant 2-3 mois, comme c'est souvent le cas ici l'été, eh ben, en fait, les arbres disparaissent. Donc progressivement, les arbres, si on ne les arrose pas, les arbres comme les cerisiers, les choses comme ça, enfin bon, c'est des plantes cultivées, mais vont mourir et sont remplacées petit à petit par des plantes. Donc la migration se fait progressivement. En fait, pour les plantes naturelles, elles se débrouillent toutes seules de toute façon. Mais pour la domestication, en fait, il y a des gens, par exemple, les Moët et Chandon, pour ne pas faire de pub, a acheté déjà des terres pour le champagne en Angleterre. Ils se sont dit que, bon, avec le changement, peut-être que là-bas, on pourra le faire dans pas si longtemps que ça.
Moi, j'ai une question. En fait, vous n'avez pas parlé du tout du rôle actuellement de l'agro-business mondial dans, justement, le rôle de la biodiversité ou l'élimination de la biodiversité. Notamment les firmes comme Monsanto, par exemple, qui imposent des cultures, des monocultures, donc avec en plus des OGM.
Non, en fait, le sujet, c'était de se placer sur un plan historique long terme et pas de rentrer dans le contemporain des dernières années. Je peux quand même répondre à la question. Oui, c'est vrai. Le système Monsanto avec le Roundup et la plante résistante à l'herbicide, c'est exactement la fin du processus, quoi, hein. Donc, parce que là, il n'y a plus de diversité du tout. Eux, ça ne les intéresse pas d'avoir de la diversité en culture. Ce qui s'intéresse, c'est une autre démarche. Mais en même temps, en parallèle, les plantes se sont toujours adaptées. Vous avez des plantes quasiment partout, même dans des coins où vous pensez qu'il n'y en aurait pas. Sur le macadam, ils arrivent à passer dans le macadam. Elles s'adaptent aussi aux herbicides. Et à partir du moment où elles se sont adaptées aux herbicides, et c'est ce qu'ils commencent à voir dans les États d'Amérique du Nord, là, ils ont un sérieux problème parce que les herbicides sont plus efficaces sur les plantes qu'elles souhaitaient traiter. Donc tout le système est à refaire. Et là, ils n'ont plus de diversité. Là, ils sont coincés. Mais eux, c'est du business. Après, il y a quand même les gens. Bon, on entend parler de la culture bio. Donc c'est déjà les gens reviennent sur les variétés traditionnelles. Ils reportent un petit peu le truc sur des fruits et des légumes qui ont plus de goût. Bon, donc toute cette démarche-là, en fait, contribue à ressortir. Vous voyez, il y a peut-être 10 ans, vous aviez des golden, vous aviez des golden et des Canada, point, comme pommes. Maintenant, vous voyez réapparaître une demi-douzaine de variétés là, de vos pommes. Si vous allez en Chine, par exemple, dans les grandes surfaces, vous avez, je ne sais pas, on n'avait pas compté, mais au moins une vingtaine de variétés d'oranges et de citrons et de trucs comme ça. C'est faramineux, quoi. Donc, il y a des possibilités, mais c'est le consommateur qui fait le job. Parce que s'il achète ce qu'on lui donne, il n'y a pas de raison de continuer à ne pas faire ce qu'il consomme. Par contre, s'il demande quelque chose d'autre, c'est des marchands, donc ils vendront ce que ils chercheront à vendre ce que vous consommez, pas l'inverse.
j'ai une question par rapport aux centres, les centres internationaux de conservation
des ressources.
Je voulais savoir, est-ce qu'on a une idée à peu près de où ils en sont, parce qu'ils font localement le travail par rapport à des espèces qui ont été d'origine, mais est-ce qu'on a une idée à peu près par rapport aux, je crois, 200 000 plantes qui existent, est-ce qu'il y a une idée de à peu près ce qu'on a pu conserver d'origine ou pas?
Bah, là, c'est pareil, les centres internationaux étant financés par les États ou les grandes, les multinationales comme la FAO ou des organismes comme ça, en fait, vont mettre la priorité au départ, ils ont mis la priorité au départ sur les grandes plantes, c'est-à-dire le riz, le maïs, des choses comme ça. Ensuite, bon, une fois qu'ils ont fait ça, ils se sont intéressés aux plantes dites orphelines, plantes sous-utilisées. Donc c'est dans la première vague, donc grosso modo entre les années 1950 et 1990, ils se sont occupés des grandes plantes, enfin grandes plantes au sens économique. Et après, et maintenant, ils s'occupent beaucoup des plantes dites orphelines. Alors il y a cet aspect donc de conservation, on appelle ça ex situ, c'est-à-dire qu'ils ramènent la plante et la conservent dans des centres, dans des chambres froides ou dans l'azote, etc. Et il y a la conservation in situ, c'est-à-dire soit chez le paysan, ou en payant le paysan ou en le rémunérant d'une manière ou d'une autre pour qu'il trouve un intérêt, lui, à conserver lui-même la ressource génétique. Hein. Voilà. Donc, c'est un système qu'au début, ils ont simplement fait de l'ex situ. Et maintenant, ils se sont aperçus que... Pourquoi ils se sont aperçus de ça? Parce que, c'est un peu pensé ce que vous m'avez posé comme question, c'est-à-dire qu'à un moment, une plante, elle est dans son environnement, elle a des pathogènes, enfin, il y a des insectes, des champignons qui vont l'empêcher quoi, de se développer correctement. Bon. Mais tout ça, c'est co-adapté, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une plante va aussi s'adapter à son environnement et être résistante. Simplement, si vous la sortez et que vous la mettez dans un frigo et que vous la ressortez 50 ans après, le pathogène, lui, il a continué à évoluer et votre plante, elle n'a pas évolué parce qu'elle est restée dans l'état de départ. Et quand vous la ressortez, elle n'est plus adaptée à son environnement, même chose que le changement climatique. Hein. Et là, c'est pour ça que souvent, quand on prend une plante et qu'on la déplace à un autre endroit, en fait, elle a du mal à se développer parce qu'elle se trouve avec un nouvel environnement qui est beaucoup plus nocif que l'environnement dans lequel elle était. Donc en fait, les gens se sont dit, il vaut mieux laisser co-évoluer la plante et ses pathogènes dans la zone d'origine. Donc ça, c'est pour ça. Donc ils font ça in situ.
Oui, je voulais vous poser une question sur le maïs que vous avez montré, là, le maïs du Mexique, les variétés originelles, où j'ai entendu parler qu'ils étaient, même ces variétés très très anciennes étaient déjà contaminées par des OGM. Est-ce que c'est pas quelque part un danger quand même à partir du moment où finalement on a, si on a besoin des caractères originels du maïs, on va les perdre?
Alors, ce que vous dites est exact, c'est-à-dire qu'il y a effectivement, du fait de l'utilisation d'OGM sur le maïs, il y a beaucoup de contaminations qui ont été faites dans cette région, y compris donc dans la région d'origine. Mais ce qu'il faut voir quand même, il faut relativiser les choses, c'est que la contamination, c'est un gène. C'est un gène sur 30 000 en moyenne. En plus, le maïs, il est un peu plus compliqué que les autres plantes. Il est, bon, je vous ai dit, hein, c'est vraiment c'est le mauvais élève de la classe, quoi. Il fait tout ce qu'il faut pas faire et tout. Donc, il est capable, lui, d'éliminer lui-même éventuellement les OGM. Mais bon, peu importe. C'est un gène sur 30 000 gènes. Donc, c'est pas aussi important qu'on veut bien le dire d'une manière générale, c'est-à-dire que on peut aussi retirer ce gène de la population assez facilement parce qu'il n'apporte aucun avantage. En fait, un gène qui n'a pas d'avantage sélectif, il va avoir tendance, si vous mettez de l'herbicide, S'il y a un gène résistant aux herbicides, évidemment, vous ne sélectionnerez que les plantes qui sont résistantes aux herbicides. Tous les autres vont disparaître. Mais si vous ne mettez pas d'herbicide, au fur et à mesure du temps, le gène il va se diluer. En fait, hein, c'est comme si vous mettez de la grenadine dans une bouteille. Hein, à fur et à mesure de vous buvez, vous remettez de l'eau, ben, au moment, c'est homéopathique. Hein, vous ne voyez plus rien. Donc, c'est une image, hein, mais le gène va se diluer, à condition évidemment qu'on n'en remette pas sans arrêt. Hein. Mais c'est donc actuellement, c'est pas aussi grave qu'on pourrait le penser, mais ça n'empêche que effectivement ils sont contaminés au sens où le gène est dans ces populations-là. Mais ça n'empêche pas tous les autres gènes de fonctionner normalement.
Oui, excusez-moi, que dit la Convention de la diversité biologique sur l'échange des variétés ? C'est-à-dire, en gros, est-ce que ce que vous disiez, est-ce qu'il faut instaurer un système de taxes et aller dans ce sens, ou plutôt penche vers une gratuité d'échange de variétés ?
Bah, en fait, aujourd'hui, le système est très bloqué. Parce que si vous voulez, ceux qui sont allés aux États-Unis, par exemple, hein, si vous avez des fruits ou quoi que ce soit dans vos bagages, ils sont détruits immédiatement. Donc ils ne vous les laissent pas rentrer, hein, déjà, pour différentes raisons. Mais bon. Et en fait, si vous voulez importer du matériel végétal d'une banque de gènes dans une autre, vous avez une liasse de papier à remplir qui est énorme. Hein, et après, il faut que ceux à qui vous le demandez veuillent bien vous le donner, gracieusement ou pas gracieusement, à but non lucratif ou pas. Enfin, quand il s'agit d'avoir du matériel pour faire de la recherche et qu'on écrit explicitement que ça sera utilisé que pour la recherche, généralement les échanges se font bien. Il y a une confiance réciproque. Mais quand c'est pour si par exemple Monsanto demande à X ou Y une variété de trucs, il va dire je vais me faire avoir quelque part, je prends mes précautions et je vais voir si je peux pas gagner de l'argent, parce que eux de toute façon ils vont en gagner. Donc en fait les gens enfin sont plus prudents quoi, hein, mais en contrepartie ça ralentit les échanges, ça, c'est évident.
Qu'est-ce qui gêne à ce point dans la biodiversité les multinationales et Monsanto, pour ne vouloir que de l'unique?
Je pense pas qu'a priori c'est pas, ils sont pas pour ou contre la biodiversité, ils sont pour l'argent. Bon. Hein.
Pourquoi bon. On ne fait pas d'argent avec de la biodiversité?
Ah, ça c'est une, ben c'est oui, ça c'est une bonne question. Mais en fait, ce qu'ils font, alors je vous explique pourquoi, parce que quand ils font une plante, bon, pour revenir sur la plante génétiquement modifiée, résistante aux herbicides, ça leur a demandé, c'est pas simple à faire quand même, hein, techniquement. Mais au départ, quand ils l'ont fait, il y avait beaucoup de mise au point parce que ça n'existait pas, donc beaucoup de recherches à faire, à introduire le gène, vérifier qu'il fonctionne bien, etc., etc. Donc tout un tas de développement. Alors ça coûte cher. Ils l'ont fait une fois et ils n'avaient pas envie. Ils auraient pu très bien dire bon, ok, on sait le faire, on va le refaire. Aujourd'hui, il y a une biodiversité des voitures. Hein. Il y a plein de voitures différentes. Elles ont toutes quatre roues, mais bon, les carrosseries, tout ça. Mais là, eux, ils n'avaient pas l'intention de faire ça. Ils ont fait un produit. Leur idée, c'était bon, ok, on a investi là-dedans. Maintenant, on va essayer de le vendre au maximum. Ce n'était pas leur problème. Ce n'était pas la biodiversité. Ils n'étaient pas contre, mais ce n'était pas leur problème. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais...
Pour reprendre la question à madame, il me semble quand même que l'association Cocopelli, ils ont quand même beaucoup de procès sur le dos. Et bon, je pense qu'eux, ils militent quand même pour la biodiversité.
Oui, oui. Il y a ce qu'on appelle le catalogue national des variétés, et qui définit que chaque, je vous disais tout à l'heure, chaque variété doit être homogène. Donc déjà, si une variété n'est pas homogène, c'est-à-dire enfin, c'est quand vous faites un semis, vous avez des trucs qui ne sont pas tous pareils, là, je prends, hop, c'est pas une variété, là. Il y a beaucoup d'hétérogénéité sur la ligne. Donc, il faudrait que ça soit homogène, clairement distinguable du rang d'après. Là, c'est pas le cas non plus. Donc on voit bien là, ils ont mis des contraintes, il faut que ça soit donc homogène, distinguable et nouveau. Donc quand c'est hétérogène etc. Donc c'est plus, on n'est plus dans la même norme de pensée. C'est pour ça qu'en fait, eux, ils réclament de pouvoir quand même vendre ça, ce qui est tout à fait légitime, mais ils se heurtent au catalogue officiel. D'ailleurs, ce sont des catalogues qui existent que dans les pays industrialisés. Hein. Si vous allez en Afrique ou en Amérique du Sud, c'est plus du tout leur problème. Ça n'existe pas, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a des lobbies forts qui ils ont pas envie en fait que les autres vendent l'organe. Il pourrait que vous les achetiez et alors eux ils vendraient comment les leurs. C'est ça en fait le problème, il est juste là. Hein.